mon aîné me disait tout simplement qu'un jour, par inadvertance, et devant moi, en lui faisant la bise, il avait embrassé sur la bouche. Et je dis, mais c'est pas que ça. Est-ce qu'il t'a touché à tes parties intimes? Est-ce qu'il t'a touché? Et c'est vrai, comme à l'époque, elle était dans une période d'adolescence un peu revendicative. Oui. Elle était avec un copain, etc. Et donc, tous les éléments faisaient en sorte de me brouiller complètement la situation, vous comprenez? Et je me dis, elle m'en veut, elle a envie d'avoir sa liberté, et c'est pour ça qu'elle dit ces choses-là, pour partir, ou même pour être placée, pour repartir chez son père. Vous voyez, il y avait des tas de choses, et je me dis, mais non, t'as envie de partir chez ton père, il suffit de me le dire, mais t'as pas besoin de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mmh. Cette plainte, ce dépôt de plainte est resté sans suite parce que je me dis, j'avais posé la question à mon ex-mari, moi j'ai dit, as-tu fait quelque chose à ma fille? Il me dit, non, je n'ai rien fait. Mmh. Je dis, ok, je te crois. Et ma fille, je me dis, bon, ok, c'est pour moi, j'avais analysé tout simplement avec les éléments que j'avais parce que ma fille ne m'avait pas donné d'autres éléments, même ne serait-ce qu'elle m'aurait dit, tu n'as pas vu, mais il m'a fait ça. Simplement, il m'a touché ailleurs, maman. Je l'aurais cru, sur parole.
Oui, mais au début, c'est difficile. Vous ne pouvez pas vous en vouloir. C'est très compliqué ce que vous avez vécu, ma chère Monica. Vous-même, d'ailleurs, vous aviez complètement refoulé ces choses-là, concernant le viol conjugal.
Tout à fait.
C'était quelque chose dont vous n'aviez pas conscience.
Non.
C'est remonté à la conscience ensuite. C'est vraiment dans l'après-coup de la séparation.
Tout à fait.
Oui, donc c'est un homme. C'était un prédateur sexuel, en réalité.
Prédateur sexuel et un pervers narcissique. Parce que j'ai analysé, vous voyez, c'est...
Oui, c'était quelqu'un quand même qui était dans la prédation. Parce que quand vous n'étiez pas là... Il s'en prenait à vos filles.
Tout à fait.
En les touchant.
En les touchant. Et les deux premières années que j'ai vécues avec lui, les enfants, quand ils partaient voir leur papa en vacances, pendant les périodes de vacances,
oui.
Les vacances, il n'était pas bien. Il me faisait vraiment comme si c'était les siens, lui manquait, vous voyez, il me faisait la misère. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as? Je lui posais la question. Et j'avais même une amie, une connaissance de l'époque, qui dit, mais qu'est-ce qu'il a? Je dis, je ne sais pas, depuis que les filles ne sont pas là, il me fait la misère, je ne comprends pas son comportement. Et je me suis dit, comme il n'a pas pu être père vis-à-vis de ses propres enfants.
Il en avait combien?
Il en avait deux.
Qu'il n'a plus jamais vu.
Les contacts étaient compliqués.
Oui, mais on se demande pourquoi, là.
Voilà.
C'était des filles?
Il y avait une fille et un garçon.
Mm-hmm.
L'aîné le rejetait complètement.
Ah oui.
Et la fille, elle avait des contacts avec lui par téléphone, parce qu'ils ne se voyaient pas régulièrement non plus. Mais elle avait des contacts par téléphone avec lui.
Mmh.
Et j'étais, dans mon esprit, c'est vrai que le décès de ma fille depuis pratiquement 9 ans, j'ai pas été suivie par un psychologue, mais je me suis battue comme je pouvais pour faire mon deuil. Et on le fait jamais quand on perd un enfant.
C'est abominable, effectivement. Ça s'est passé en 2011, hein.
Ma fille est décédée en 2016, le 11 septembre 2016.
En 2016, d'accord.
Oui, 2016.
Mmh.
Et je suis acharnée dans mon travail, comme une folle, mais c'était ma façon aussi d'aider les gens, parce que dans mes fonctions, j'aidais les gens.
Oui.
Parce que je suis syndicaliste et je défendais les gens dans ma société.
Mais il y a eu un procès.
Il n'y a pas eu de procès parce que ma fille, ma fille, mon aînée, n'a pas à retirer.
Non, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de l'assassinat de votre fille.
Ah, l'assassinat de ma fille, il n'y a pas eu de procès parce que le jeune homme qui l'a assassiné s'est tué en voiture le lendemain.
Ah bon?
Voilà, c'est le bon Dieu, enfin, le procès, c'était le Dieu qui a fait...
Mais il était poursuivi le lendemain, la police ne l'a pas arrêté tout de suite, c'est ça?
Non, c'est que, oui, voilà, c'est qu'avant qu'on sache que ma fille soit décédée, il s'est tué en voiture. Il a tué au milieu de la nuit.
Ah ouais.
Et le lendemain matin, il s'est tué à 9h du matin. Et personne ne savait que ma fille était décédée.
D'accord. Donc en fait, il l'a tué, il a pris la voiture et il a eu un accident. Bon, c'est une forme de suicide, là. Ouais.
Exactement.
Oui.
Et c'est moi qui l'ai retrouvée chez elle, parce que ma deuxième fille s'inquiétait, comme elle avait su que ce jeune homme s'était tué en voiture. Et on s'inquiétait. Et je dis, je vais aller chez ta sœur pour voir.
Mais oui, pour lui apprendre même. Vous pensiez lui apprendre le décès de son copain.
Tout à fait. Et puis, tout était fermé, ce qui était bizarre aussi. Tout était fermé. Ma fille avait l'habitude que ses volets étaient toujours entrouverts. Et là, tout était fermé, comme si elle partait en vacances. Mmh. Et à un moment donné, j'avais une de ses amies qui me dit, c'est bizarre... Si elle était partie, elle aurait pris sa voiture. Et là, ça m'a fait tilt. Et j'ai tout fait pour ouvrir les volets de sa chambre, parce qu'à l'avant, on ne pouvait pas. Mais derrière, je savais comment ça fonctionnait. On a ouvert, j'ai vu simplement une goutte de sang, une petite gouttelette de sang, qui était sur le rebord de la fenêtre. Et là, je dis, ça m'inquiète. J'ai été prendre des outils, j'ai cassé le carreau, et j'ai trouvé ma fille par terre.
Mmh. Elle était déjà morte.
Elle était déjà morte, malheureusement. Mmh. Malheureusement.
Ah oui, Monica, effectivement, vous avez vu comme ça ces images absolument obsédantes, là. Il y a tout un... Oui, oui. Et il y a tout un cheminement depuis 2016, alors, où vous avez pu, au fond, retrouver un sens à votre vie. Peut-être grâce à votre autre fille et avec vos petits-enfants, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est ma deuxième fille avec mes petits-enfants m'ont donné, depuis l'aîné de la naissance de mon premier petit-fils, pour moi, c'était ma lumière. Vous voyez, c'est une lumière qui s'allumait. Après, elle a eu son deuxième. C'était une deuxième lumière. Et les trois font mes lumières qui me tiennent encore debout. Qui me donne envie d'avancer. Et c'est vrai, quand vous me voyez, vous ne dites pas que je porte
tant de chagrin.
Tant de chagrin et une histoire aussi lourde.
Oui.
Et puis, suite à cela, je me dis, bon, le chagrin de la perte de ma fille, mais je me dis, allez, il faut avancer. Et là, ce qui m'arrive le pire, c'est que en tant que maman, on ne peut pas concevoir qu'on est touché.
Ah oui, c'est une rage. Il y a une rage.
Tout à fait.
À l'endroit de cet homme, qui est toujours en vie.
Qui est toujours en vie et qui fait comme si rien n'était.
Oui.
Et je l'ai confronté, c'était dimanche dernier, ça fait deux fois de suite qu'il vient frapper à ma porte. D'habitude, il s'annonce, c'est-à-dire qu'il m'envoie un texto en disant j'ai des courriers pour toi. Puis que là, il est venu comme ça, frapper. Et il a dit, je t'envoie des textos, tu ne me réponds pas, je m'inquiète. Et entre-temps, bien sûr, il avait envoyé des textos à ma fille et à son ami, et qui l'ont rassuré. Il dit, mais tout va bien, elle va bien. Et là, il vient comme excuse, mais je m'inquiète pour toi, je pensais que tu étais à l'hôpital. Et j'ai dit, tu t'inquiètes pour moi, j'ai dit, tu te fiches de moi. Moi, je dis, tu te fiches complètement de moi à l'hôpital. Moi, je dis, tu parles, j'étais à l'hôpital l'année dernière, t'es même pas venue. Et là, tu dis, tu t'inquiètes pour moi. Moi, je dis, mais tu n'as pas honte de ce que tu as fait. Et là, il me regarde, il dit quoi? Il me dit, mais tu n'as pas honte. Moi, je dis, non seulement tu as volé mes 24 années de vie de femme, mais encore, je m'en fiche de ça, mais tu as volé l'innocence de mes enfants.
Alors, quelle a été sa réaction ?
Il m'a regardé, il a tourné les talons, il est parti. Et même suite à ça, ce qui est incroyable, suite à ça, bien sûr, nous avons, c'est la période des impôts qu'on nous relance, si vous avez des impôts de surplus à payer. Et bien, il m'écrit comme si rien n'était.
Oui. Oui, il y a vraiment l'impunité, de l'absence de culpabilité, de l'absence d'empathie minimale.
Tout à fait. Et vous voyez,
oui, on le retrouve beaucoup sur ce type effectivement de personnalité, coupée de leurs affects.
Tout à fait. Et quand vous m'avez posé la question, on dit mais quelle était sa réaction quand vous avez décidé de divorcer ? Eh bien, il me regardait pleurer. Et je me disais, mais tout ça, tous ces 24 ans de vie commune avec lui pour en arriver là. Et il me regardait pleurer, mais vraiment comme si j'étais un animal apeuré. Il me regardait m'observer. Mais c'est tout. Et vous voyez, après ça, quand il a vu que je partais réellement, les derniers jours, que le dossier chez l'avocat était prêt à se finaliser pour le divorce, et là, il a commencé à pleurer. Il me dit, tu vois, là, tu me disais que je pleure jamais. Ben là, je pleure, ça veut tout dire. Et je le regarde, moi, je dis, tu pleures, c'est bien. Mais ça veut te dire quoi? Il me dit, c'est que j'ai mal. Ben, je dis, t'as peut-être mal, mais j'ai mal aussi. Mais c'est fini. On va pas refaire l'histoire. La page se tourne, tout simplement.
Oui.
Et même le dernier jour... parce que j'ai pas voulu quitter le domicile conjugal tout de suite, parce que c'est un homme qui pouvait dire abandon du domicile conjugal, etc.
Découvrez les comptes ados d'Instagram avec de nouvelles protections intégrées. Les comptes sont privés par défaut, ce qui aide à protéger les ados contre les contacts non sollicités. Le contenu et les commentaires sont automatiquement filtrés pour aider à s'assurer qu'ils sont adaptés à l'âge. Et les ados de moins de 16 ans doivent obtenir l'accord parental pour modifier ces protections. Compte ados d'Instagram, de nouvelles protections intégrées pour que les parents aient l'esprit tranquille. En savoir plus, instagram.com/compteados.
Qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, pour le dernier jour, je voudrais que tu t'allonges à côté de moi, dans le lit. Et là, j'ai dit non. Je suis restée dans la cuisine, j'ai dit non, hors de question. Et là, il s'est réveillé tout de suite, il s'est levé comme si rien n'était, vous voyez.
Oui, on voit bien que là, il y a une dissociation comme ça. Enfin, on parle pas des mêmes choses, quoi, en quelque sorte. Il est dans un univers très sordide. Où il faut vous allonger, on est coupé comme ça du sentiment de la peine en fait que ça fait quand on se sépare de quelqu'un.
Tout à fait. Et au-delà de ça, je suis sa troisième épouse mariée.
Oui.
C'est bien, troisième épouse mariée. Et il y en avait deux autres auparavant où il m'expliquait un tel, la mère de mes enfants, elle n'était pas ambitieuse, elle faisait mal le ménage, c'était sale à la maison. Je l'ai quittée à cause de ça. La deuxième, c'était, elle était plus âgée que lui de 3 ans et là, il m'a dit que c'est une infomane. Elle pensait qu'au sexe.
On caricature finalement les uns les autres. On est dans la pensée opérationnelle. C'est parce qu'elle fait, parce qu'elle n'est pas ordonnée qu'on la quitte. Ou c'est parce qu'elle est nympho, dans le sens où, effectivement, oui, c'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas sur la personne, sur ce qu'est la personne en profondeur, sur ses. Vraiment. Sur ce qu'elle est en humanité, quoi. Mais tout on préfère la disqualifier, la parodier, s'en moquer.
Tout à fait. C'est vrai, comme j'étais jeune à l'époque, les histoires des uns et des autres, je savais un bout et je me contentais de ça. Vous voyez, je me contentais de ces explications.
Oui, je comprends, parce que vous étiez avec lui et qu'au fond, vous l'aimiez, et puis il n'y avait certainement pas que ça.
Tout à fait. Suite à ça, la tête bien sur les épaules, je me dis, il faut que je sache, parce que là, je découvre un personnage qui a abusé de mes filles.
Ah ben là,
et je me dis, il faut que je cherche qui non seulement a abusé de mes filles, mais qui m'a violée. Et je me dis, il faut que je découvre réellement ce personnage que j'ai vécu pendant 24 ans.
Oui, ben donc, en plus, c'est un profil... Enfin, je trouve que c'est assez dangereux ce que vous dites là. Je ne sais pas, moi. C'est étrange quand même, hein. Vous pensez que ça peut être ça a pu être un agresseur sexuel sur d'autres dans d'autres champs que ça ne vous est pas venu à...
Oui. Bah si, bah c'est en faisant des recherches. Toutes ces femmes qui ont été en contact des amis de mes enfants.
D'accord.
Qui ont été en contact avec lui encore cet après-midi, j'étais je dis pas auditionnée mais cherchais à comprendre et elle m'a toujours dit moi, je dis, mais tu ne nous connaissais pas depuis le décès de ta meilleure amie. Comment se fait-il ? Elle m'a dit, j'étais pas à l'aise avec lui.
D'accord, dit, mais il n'y a pas eu d'agression.
Non, il n'y a pas eu d'agression. Elle me dit, mais plusieurs
mais
fois.
Libidineux, quoi.
Voilà, et j'ai eu aussi une amie qui vit dans la région et elle me dit, depuis son divorce, elle me dit, tu sais, quand tu n'étais pas là, eh ben, je refusais de rentrer dans la maison. Je déposais ce qu'il fallait déposer, mais j'ai resté au bas de la porte dans le jardin. J'étais pas à l'aise, hein. J'étais pas bien. Il y a deux ans et demi maintenant, il y a eu un accident de moto où il y avait trois infirmiers qui à tour de rôle venaient à la maison. Il y avait un homme dont deux femmes et dont une qui était jeune. Et elle, à la fin, elle a refusé de venir quand je n'étais plus là, quand je n'étais pas présente. Elle a refusé de venir le soigner parce qu'il faisait des avances assez, assez prononcées. Alors, j'étais faire aussi mon enquête. Je suis remontée un peu plus loin. J'étais voir sa première femme.
Oui.
Et j'ai essayé de comprendre le personnage parce que...
Oui, vous avez posé des questions sur comment elle était dans l'intimité.
Et exactement. Et là, elle me dit, moi de ma génération, fallait satisfaire l'homme. Et il fallait l'acte sexuel. Elle me dit, à la fin, je le faisais sans consentement, je regardais ailleurs.
Oui,
et
oui.
Ce qu'on appelle maintenant, on a... l'évolution des mœurs, hein, on dit que il y a le viol passif.
Oui, simplement. Oui, enfin, la soumission aussi. Hein.
Voilà.
Oui. C'est la soumission à l'homme, comme ça, on va dire, de ces femmes comme ça, qui supportaient tout, quoi, en réalité.
Tout à fait.
Oui.
Et sa deuxième femme, qui est maintenant décédée, entre la première et la deuxième, ils échangeaient les enfants, enfin ses enfants à lui, comme ils étaient petits, etc. Et elles se connaissaient, donc par des coups de téléphone, etc. Donc ils étaient plus ou moins en relation. Et elle avait su sa deuxième femme qu'il allait se remarier. Et là, elle a téléphoné à la première femme. C'est marrant de dire première et deuxième.
Oui.
L'impression d'être au temps des rois.
Oui, c'est vrai que ça fait un peu harem, oui.
Oui, et sa deuxième femme a posé à sa première femme, elle dit, mais je vais vous poser une question assez intime. Est-ce que pendant votre mariage, vous avez eu recours à des sextoys, etc. Elle dit, non, moi j'étais jeune, il y a hors de question, je n'étais pas ce genre de femme. Moi, je ne juge pas, par contre. Hein. Les femmes qui ont recours à ça, c'est chacun...
Non, mais ça n'a aucun rapport. D'utiliser des sextoys dans sa vie sexuelle, ce n'est pas du tout de l'agression. Oui. Hein. Oui.
Sauf que la deuxième, où il m'avait décrit qu'elle avait, qu'elle était infomane, et puis elle, par contre, elle a dit, moi, c'était une obligation... d'utiliser ça. Et donc, quelque part, je me dis, c'était un homme qui était porté sur la chose. Mais quand vous le voyez, c'était bizarre. Alors, tous ces faits me relate tout simplement l'individu qu'il était.
Mais ça, c'est pas un crime d'être porté sur la chose, d'avoir envie d'une vie sexuelle, on va dire fantaisiste, avec des sextoys, et avoir, même à la limite, d'avoir plusieurs femmes. C'est pas du tout le problème, ça. Là, ce sont des codes moraux, là, que vous mettez en avant. Mais ça a peu d'importance. Non, ce qui a beaucoup d'importance, c'est d'avoir pratiqué des actes sexuels sur des mineurs non consentants, d'avoir bafoué comme ça votre confiance, quoi. De vous avoir violé, parce qu'au fond, voilà, il vous soumettait, quoi, dans vos rapports conjugaux.
Tout à fait.
Il ne cherchait pas votre plaisir, il ne cherchait pas votre consentement, il cherchait juste la domination.
Tout à fait, c'est exactement ça.
C'est ça qui est grave.
Oui, et je pensais qu'en étant plus jeune que lui, je le satisfais pleinement, et que en aucun cas, il allait abuser de mes enfants.
Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a deux, pour moi, même si le viol conjugal peut être grave, effectivement, effractant, et peut détruire une personnalité, mais c'est dans votre vie, c'est pris dans la vie conjugale. Les abus sexuels sur vos enfants en votre absence, là, vous le soupçonnez, hein, puisqu'il n'y a pas eu de procès, hein, mais malgré tout, vous avez foi dans la parole de vos filles. C'est quelque chose là qui relève de la haute perversion. Hein.
Non seulement j'ai foi en la parole de mes filles, qui n'a... Vous voyez, comme je vous ai dit, pour planter un peu le décor, je suis une femme divorcée, en consentement mutuel. Je n'ai rien à lui demander, vous voyez, je n'attends rien de lui.
Oui.
Donc ma page, mon histoire est finie avec lui. Donc j'ai pas de grief quelconque, vous voyez.
Ma chère Monica, vous pouvez en avoir des griefs, parce que même de la haine et de la rage envers cet homme.
Et là, à l'heure actuelle, oui, je veux que justice soit faite.
Mais évidemment. Simplement. Mais comment voulez-vous ? Enfin, vous vous rendez compte ? Vous avez appris l'abominable. L'abominable. Il n'y a pas pire, hein, en la matière. Vous avez appris que vos enfants, en votre absence, alors que vous les croyez en sécurité avec cet homme, en lequel vous aviez une relative confiance, au fond.
Tout à fait.
Vous saviez qu'il avait son caractère, mais c'était rien, oui. C'était inenvisageable.
Et au-delà de ça, c'était des menaces, du harcèlement sexuel vis-à-vis de ma deuxième fille, du chantage.
Et d'ailleurs,
Des actes sexuels contre de l'argent. Vous voyez, et à la fin.
Avec vos enfants.
Avec ma deuxième fille.
Deuxième fille, oui.
Voilà. Je suis en train de monter tout un dossier. Alors, j'en parle.
Oui.
Je suis passée à l'antenne, pas pour me faire plaindre, mais pour dire que tout simplement, en tant que maman, c'est vrai que quand j'en parle à mon entourage, à des personnes plus ou moins proches, simplement, et c'est vrai que dans l'ensemble des personnes que je peux connaître, il y a toujours eu de l'abus sexuel d'un adulte proche. Qui a fait que des non-dits, on ne dit rien, on cache. Et comme je suis une personne qui se dit tout simplement, ces choses-là ne doivent pas arriver, ne doivent plus arriver. Et même si c'est compliqué, même si c'était quelqu'un de notre famille, d'un père, d'un frère, peu importe, même d'un être cher qu'on a aimé,
oui.
Il faut savoir se battre pour rétablir la justice, et c'est puni par la loi. Mmh. C'est surtout ça. Et mon témoignage, c'est surtout par rapport à ça, je me dis, c'est à notre époque, les hommes ne peuvent pas posséder une femme, ne peuvent pas posséder un mineur. ne peut pas faire des choses comme ça parce que...
C'est sous le coup de la loi, effectivement. Oui, oui, même aujourd'hui, enfin, vous avez le droit, effectivement, de monter un dossier. Évidemment, c'est très important pour la réparation. D'autant que votre fille a été assassinée, votre aînée, et c'est quelque chose de terrible pour vous.
Oui. Ben vous voyez,
en matière de choix inconscient, vous savez, enfin, elle a choisi quand même un homme qui la maltraitait, cet enfant.
Oui. Mais vous voyez, si elle n'avait pas eu... Je me pose la question, alors simplement, je n'ai pas de réponse.
On peut pas
et
en
je
avoir.
Me pose la question si elle n'avait pas eu ces attouchements.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Peut-être.
Oui.
Elle n'aurait pas rencontré
je suis
les
d'accord.
Bad boys.
Absolument, absolument. Voilà. Elle s'est mise, on va dire, dans les griffes, en quelque sorte, elle s'est mise dans les griffes d'un homme qui l'a abîmé, quoi.
Exactement.
Et comme pour s'il toujours. Avait fini voilà. le travail, quoi, quelque part.
Voilà, c'est exactement ça. Et je me dis, non seulement, il en est responsable. Quelque part hein, de sa vie, peut-être pas responsable de sa mort,
quand on pratique de telles choses sur des enfants, on les abîme pour toujours, ça c'est vrai.
C'est sûr. Et vous voyez, c'est pour cela que je voulais témoigner que pour que tous les auditeurs, hommes ou femmes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes femmes ou des... Il y a aussi des jeunes hommes qui se sont fait abuser dans leur enfance.
Absolument, oui, il n'y a pas de genre. Hein.
Exactement.
Il faut
qu'ils sachent en parler,
oui.
même tardivement. Et je regardais, alors je ne sais pas, au niveau des textes de loi sur Internet, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais un acte d'abus sexuel sur mineur, c'est jusqu'à l'âge, il y a péremption, jusqu'à leurs 38 ans.
Oui, oui, tout à fait,
voilà.
tout à fait. Et puis, constituer un dossier, ma chère Monica.
Voilà.
Violaine, nous avons des messages concernant Monica ce soir.
Et surtout, un petit message de prévention.
Oui, absolument, c'est très important.
Oui, donc si un proche ou vous-même êtes victime de violences conjugales, donc elle peut être physique, psychologique ou sexuelle, n'hésitez pas à contacter le 3919, un numéro gratuit et anonyme. Il existe également le 119, un numéro dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. C'est également un numéro gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en cas de danger, on rappelle le 17, le numéro de police secours, et le 15, le SAMU.
Absolument. Voilà, ma chère Monica.
Merci beaucoup de m'avoir entendu et échangé avec moi.
Et il y a également l'association d'Arnaud Gallet hein, qui est importante et on peut en parler effectivement ce soir sur l'antenne. C'est Arnaud Gallet, c'est Move Enfance et c'est concernant l'enfance en danger également. Hein. C'est une association très active. Je vous encourage à prendre attache avec ce type de structure. Qui lutte justement contre ce type de violence.
Merci beaucoup.
Voilà Monica, très belle nuit à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Parlons-nous, présenté par Joseph Agostini.
Que vous soyez plutôt politique avec Étienne Jernel.
Si l'Allemagne peut se permettre d'investir, c'est que sa dette publique est seulement 62% du PIB. Nous sommes à 113.
Ou humour avec Philippe Cavrivière.
Je rappelle que Claude a accompagné plus de 4000 malades vers la mort. Pardon, le gars, dès qu'il suit quelqu'un...
Votre grande tranche d'info, c'est RTL Matin, 7h-10h. Parlons-nous. Présenté par Joseph Agostini.
just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry? When we ride the fine line between love and hate, if I had been
Christian's World sur RTL.
Jusqu'à 1h.
Joseph Agostini sur RTL. Parlons-nous.
Et avec Monica, nous parlions des violences sexuelles sur les mineurs et de l'association d'Arnaud Gallet, Violaine.
Oui, effectivement. Donc Arnaud Gallet, qui est militant de la protection de l'enfance, il est donc, comme Joseph l'a dit, cofondateur de Move Enfants, mouvement de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous souhaitez avoir davantage d'informations.
Move Enfants, absolument. Merci Violaine. Bonsoir Lina.
Bonsoir.
Bienvenue sur RTL.
Merci.
Alors Lina, vous traversez des moments difficiles, hein, et notamment une addiction à l'alcool depuis 3 ans.
Oui. Ça a été assez sournois à apparaître. C'est venu très très lentement et quand j'étais 3 ans, c'est, ça a peut-être même apparu durant le confinement. Et comme j'étais très isolée, ça a été comme une valve de secours, de réconfort. Et
vous êtes une maman isolée, hein?
Oui, je suis une maman solo.
Oui, de votre fils tout seul.
Oui.
D'accord. Oui. Il a 12 ans aujourd'hui.
Il a 12 ans, il a une trisomie 21.
Oui.
Et récemment, cette année, il a intégré une nouvelle structure. Donc, au lieu d'aller à l'école et puis le chercher, maintenant, je ne vais plus à l'école parce que la structure prend en charge les transports. Mmh. Donc, je suis encore plus isolée. D'accord. Et du coup, c'est un peu mon refuge, quoi, si vous voulez.
Oui.
Même si je vois très, très régulièrement un psychiatre depuis 2008, parce que j'ai une pathologie qui demande à être suivie de façon psychiatrique.
Mmh. Vous voulez nous en parler?
La pathologie, c'est une maladie auto-immune orpheline, dégénérative, qui, en fait, ça agit beaucoup sur mon quotidien. Mmh. Cette maladie, si vous voulez, elle a été en rémission, mais elle a ressurgi subitement il y a à peu près 8 ans, 7-8 ans.
Mmh.
Et c'est difficile à gérer, et c'est une maladie qui vient avec une autre pathologie associée, une pathologie satellite.
D'accord.
Et du coup, je suis en incapacité de travailler. Et là, j'essaye de viser une. Je suis dans la fonction publique, j'ai 3 enfants.
Ah, vous avez 3 enfants?
Oui.
Dont un enfant handicapé?
Oui, le dernier.
Le plus petit?
Oui.
D'accord, entendu.
Les deux autres sont adultes, mais durant ma carrière de fonctionnaire, j'ai eu 3 enfants, et du coup, là,
d'accord.
J'envisage une retraite avant l'âge.
Oui, bien sûr.
Puisque je n'ai pas travaillé depuis déjà un certain temps.
Oui, d'accord. Entendu. Et vos deux autres enfants ont quel âge?
Ils sont dans leur petite vingtaine.
D'accord, ok. Ouais. Et ils font des études?
J'ai une fille qui est hors études et un garçon qui continue.
D'accord, ok. Et votre fille travaille?
Oui.
Ah, d'accord. Oui. Mmh. D'accord. Et votre fils en situation de handicap, donc atteint de la trisomie 21, comment vit-il? Est-il institutionnalisé? Comment ça se passe?
Oh non, il n'est pas institutionnalisé, il est pris en charge dans un établissement scolaire, mais dans une classe spécialisée pour enfants avec des déficiences.
Entendu. D'accord.
Mais il est à la maison.
Il est à la maison, il n'est pas en internat.
Non.
D'accord, non. Ok. Donc vous le gérez tous les jours?
Je le gère tous les jours parce qu'il a des horaires assez particuliers qui sont pas. Il n'est pas en temps complet en établissement scolaire, il est en 50%.
D'accord. Et vous allez le chercher à l'école?
Non, bah justement non, parce que ça fait depuis la rentrée dernière où je ne vais plus à l'école et ils viennent le chercher, ils vont et me le ramènent.
D'accord, très bien. Ok. Donc vous bénéficiez de ces transports-là?
Oui, parce qu'il est, relié à une IME.
D'accord, ok. Ainsi, il y a un institut médico-éducatif pour les auditeurs.
Voilà. Mmh.
Très bien. Donc, finalement, c'est l'alcool là qui vous... qui vous ravage en quelque sorte.
Parce qu'il y a l'isolement complet de l'extérieur, ou plus ou moins complet. Enfin, ma sortie pour socialiser, c'est aller faire des courses. À un moment donné, c'était faire les courses par Internet. Et puis, j'ai abandonné parce que je ne voyais plus personne. Du coup...
Et vous n'avez pas d'activité, vous ne voyez personne en dehors de vous.
Je ne peux pas aller marcher avec un club parce que ma santé me l'empêche. Je peux pas faire de sport, ma santé me l'empêche à cause de mes articulations.
Qu'est-ce que la santé ne vous empêche pas alors?
Pas grand chose.
Ah bon?
Pas grand chose. Je suis fatiguée très très rapidement.
Ah oui.
Toute l'énergie que j'ai dans la journée, je la dédie à mon fils. Ces derniers mois, j'ai essayé de faire attention un petit peu à ma prise d'alcool. Mais y a beaucoup de choses qui refont surface de mon passé. Et du coup, je suis un petit peu perdue, on va dire. J'ai du mal à gérer. Si je me considère comme alcoolique, je serais une alcoolique fonctionnelle.
Oui. Vous pouvez nous parler de votre consommation d'alcool?
Je peux citer une marque ou pas?
Non, mais...
D'accord.
Dites-nous comment vous buvez.
Je peux boire à partir de 5 heures de l'après-midi.
D'accord, c'est l'après-midi, oui.
Oui. Ce sont des bières de 5,9% à la tequila.
D'accord.
Et j'en prends 4.
4.
Oui. C'est des canettes de 500 mg, 500 ml.
Ouais. Vous tenez bien l'alcool?
Oui.
Parce que votre fils, je suppose que votre fils arrive de l'école à ce moment-là.
Oui.
C'est oui, où il arrive que vous vous alcoolisez?
Parce que c'est le moment de la journée où je me l'autorise, parce qu'il y a très très peu de chances que je ressorte de la maison pour une chose ou une autre.
Mais quand il est là, ça altère vos rapports?
Non, pas nécessairement, parce que on joue beaucoup, on discute, on fait beaucoup de choses ensemble.
Vous arrivez à rester concentré?
Oui.
D'accord, vous ne vous assoupissez pas.
C'est pas. Parce que ce n'est pas 4 canettes l'une après l'autre.
D'accord, oui.
C'est 4 canettes entre 17h et 23h, peut-être, ou 23h30.
D'accord.
C'est vraiment pas l'une après l'autre en un seul coup.
Et vous considérez que c'est un problème?
Oui, puisque c'est récurrent et j'ai peur que ça augmente.
Oui, oui. Donc vous avez conscience en quelque sorte de cette addiction et vous voulez en sortir.
Oui, je voudrais en sortir et en même temps c'est comme un doudou et c'est compliqué parce que même si je dois ne pas boire, j'arrive à ne pas boire si je vais voir ma mère ou si je vais voir mon frère. Je peux passer une journée, la soirée avec eux sans boire. C'est pas pour autant qu'en rentrant à la maison, je vais boire non plus parce que j'irai dormir. Parce que trop fatiguée, mais. Et je peux. Enfin, je sais pas, moi, si j'ai un problème de santé ou quoi, je vais pas boire.
Oui.
Mais c'est comme un doudou, si vous voulez. Ça m'est rassurant. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui refont surface, qui m'ont énormément blessée, qui m'ont ralenti dans ma vie de femme.
Oui.
Et du coup, je me tourne vers ça pour pas y penser. Pour m'évader un peu. J'ai un frère qui est décédé quand j'avais 22 ans, qui est décédé subitement. J'ai eu un compagnon qui me faisait boire beaucoup et qui profitait de moi quand j'étais quand j'avais bu.
Mm-hmm.
Un mari qui n'a pas été très très gentil. Et toutes mes relations ont été des relations très déconnantes comme ça, quoi.
Oui, parce que là aujourd'hui, si j'ai bien compris, une hospitalisation, une cure pour vraiment travailler sur ce problème lié à l'alcool, vous poserez problème dans la mesure où vous n'avez pas quelqu'un d'autre pour garder votre enfant.
Oui, ça c'est.
Ouais, et vos autres enfants sont encore petits, enfin jeunes.
Ils sont même pas sur la région, donc.
Ils sont pas sur la région. Oui, non, mais à titre exceptionnel, vous voyez, si vraiment il y avait.
Oui, mais une cure, ça demande 3 semaines.
Ah oui, ça demande.
Au moins.
Ça demande du temps, ça demande de l'implication, du désir, quoi.
Ça demande au moins 3 semaines et.
Oui, il faut avoir le désir de s'en sortir.
Et ils sont pas sur la région. Le petit, il a son truc, sa scolarité.
Et vous n'avez pas moyen de faire, d'avoir un autre système, peut-être d'internat.
Non, pas ici, non.
Non, d'accord.
Non. Non, et je sais pas si je serai assez forte pour pouvoir le laisser aller en internat.
Oui. Après, il y a des traitements, hein, vous le savez. Hein. Vous êtes au courant
essayé.
De beaucoup de choses.
Oui,
vous avez essayé.
J'ai essayé. Oui, mm-hmm. Oui, j'ai essayé.
Ça n'a pas fonctionné.
Ça a fonctionné quelques jours, quoi, si vous voulez. Puis,
oui.
Puis après, je me suis dit, ouais, je suis forte. Voilà. Je peux boire un coup sans... Donc ça fasse quoi que ce soit, et puis voilà.
Oui, ce que j'entends de toute manière,
c'est que
c'est bien identifié, c'est-à-dire que vous êtes seule au monde, ma chère Lina.
Ouais.
Et que cette solitude, comme vous le dites, il y a quelque chose de très régressif dans l'alcool, c'est-à-dire le doudou du soir, quoi.
Ouais.
Je passe une journée si difficile avec une douleur physique, avec un immobilisme constant. Mon fils, au fond, quand il revient, même si j'ai beaucoup de joie à jouer avec lui, à être avec lui, évidemment que la trisomie vous renvoie à une forme d'impuissance aussi en tant que.
Oh non.
Non.
Non, pas du tout.
Non, ça, c'est bien.
Ah non, pas du tout.
C'est très bien.
Je suis parfaitement heureuse avec mon enfant.
Bon.
Ah, je suis parfaitement heureuse avec mon enfant. Je l'ai accepté tel quel avant la naissance, puisque j'ai eu l'opportunité, l'occasion, la chance, je dirais, peut-être.
De le savoir et de ne
de
pas...
De le savoir avant et d'avoir eu le choix. Et,
oui, oui.
Et c'est un compagnon absolument, c'est un compagnon parfait. Il est,
oui, donc ça, alors là, je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est-à-dire qu'effectivement... Parfois, malheureusement, hein, et c'est triste d'ailleurs à dire, mais l'alcoolisme, quand le parent vit des situations avec un enfant en situation de handicap, parfois il exprime une sorte de, voyez, de blessure.
J'ai pas de rancœur par rapport à cette raison.
Ça c'est bien.
J'ai absolument pas de rancœur par rapport. C'est peut-être violent à dire. Mais c'est presque dommage qu'un enfant comme le mien ne soit pas plus visible et plus présent dans les familles de notre quotidien.
Oui, vous avez raison. Parce que là, en ce moment, d'ailleurs, hein, vous avez vu comme la visibilité, les personnes... J'ai vu ce film, Un petit truc en plus. Hein,
vous avez eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu la chance de le voir.
Vous l'avez pas vu. Ah, il faut vraiment que vous le voyez. Bientôt, il passe à la télé. Et je pense, hein, dans quelques temps, quelques mois. Et c'est vraiment formidable. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les papotins à la télévision. Vous avez vu ça ?
Non.
Vous n'avez pas vu cette association ?
Non, je suis plus réseaux sociaux et YouTube que télé parce que je ne supporte pas de tomber sur les actualités, les choses comme ça, parce que ça me rend vraiment très très triste. Et,
Mais oui, mais là, ce sont des actualités heureuses.
Oui, j'imagine. Oui.
Il y a ce film, il y a les associations, ça bouge beaucoup. Et retenez, il y a pas moins de, il y a quelques heures, j'étais dans un café et c'est une personne, une jeune fille trisomique qui m'a servi. C'était pas le café, parce qu'il y a un café sur les Champs-Élysées.
Le café joyeux.
Voilà, le café joyeux, exactement. Ça, vous le connaissez.
Oui, je les connais.
Voilà, donc là, non, j'étais pas au café joyeux, mais c'était une jeune fille trisomique qui m'a servi. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, elle est vraiment, on sentait qu'elle avait envie de faire ce métier, qu'elle prenait plaisir à parler aux gens et que beaucoup de gens lui souriaient. Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, voilà, la société est en train vraiment d'avancer dans le bon sens en matière d'inclusion.
Oui.
Bah oui.
Mais moi, j'ai fait beaucoup de choses pour la trisomie j'essaye de le peu de personnes que je vois, j'essaye que de trier au plus, parce que je veux m'entourer de personnes qui vont accepter la présence de mon fils sans qu'ils aient à penser à son handicap, en fait. Parce que moi, quand je le regarde, pour moi, il n'a pas de handicap, donc...
Après, tout dépend. Hein. Vous savez, il y a des. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans un foyer pour adultes en situation de handicap et il y avait différents degrés, hein, de handicap mental dans la trisomie 21. Et je pense que vraiment, alors, ça fait partie des handicaps où l'environnement psycho-affectif est déterminant. On peut quand même avoir un retard beaucoup plus accentué, des empêchements beaucoup plus grands quand on est moins sollicité ou alors quand le
milieu... Quand
le milieu familial n'est pas vraiment... J'ai vu des trisomiques 21 être à peine parlant, vous voyez. Être à peine verbal, alors que d'autres, ils étaient adaptés à des situations que je suis d'accord, on aurait presque pu. Alors effectivement, hein, il y a quand même ce visage qui est très, assez reconnaissable, mais on aurait presque pu s'y tromper, vous voyez. C'est-à-dire que c'est des gens effectivement sont, voilà, qui sont arrivés à acquérir comme ça une adaptation à la société, au code.
Oui, parce qu'on les a fait sortir des placards, entre guillemets.
Oui, oui, bien sûr, oui.
C'était le cas à une époque. Mais non, mon fils, c'est quelqu'un de... Il est très ouvert aux autres, il est très, très bavard, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Oui. Moi j'ai le décodeur, donc ça va. Mais c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le point le plus sombre de ma vie. C'est peut-être même le point le plus lumineux de ma vie.
Après, ce que j'ai observé, moi, en tant que psy, des parents, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens familiaux avec les parents, et en la matière, j'avais l'impression, maintenant, voilà, c'est une vision assez subjective de soignant, mais j'avais l'impression que les enfants qui allaient mieux, qui étaient le plus, on va dire, au fait, comme ça, étaient les enfants que les parents lâchaient, acceptaient de lâcher. Parce que c'est vrai que quand il y a un handicap dans la famille, parfois, vous avez certains parents qui s'agrippent à l'enfant, qui peuvent pas le laisser partir, ils sont trop angoissés, ils ont peur, du coup, ce sont des enfants qui restent beaucoup, beaucoup en vase clos, et ce sont pas ceux qui vont le mieux. Là, moi, j'ai d'expérience, ceux qui allaient le mieux étaient les enfants quand même que les parents lâchaient, qui avaient une vie sociale, parfois même professionnelle, qui étaient capables, justement. Enfin, on sentait que les parents avaient fait un travail qui consistait, même si l'enfant était en situation de handicap, de lui laisser vivre sa vie.
Oui, non mais j'adhère totalement à ça. Je sais que mon fils il est très dégourdi, hein. Très très dégourdi et très futé. Je suis ravie de son évolution. Hein.
De qui il est.
Oui.
Au-delà de justement du handicap, quoi. C'est vrai qu'il faut penser aux subjectivités, il faut penser aux personnalités de ces personnes-là, sans vouloir les réduire en quelque sorte, les essentialiser, quoi.
Ah non, moi je le porte, sur un piédestal presque. Hein. Lui c'est Batman, je suis Robin. Hein.
Oui, ben oui, c'est ça.
Quelque c'est un part, peu ça, avez...
ouais. Donc, c'est peut-être aussi en son nom que vous devez lutter, ma chère Lina, pour lutter contre la spirale de l'alcool qui peut, comme vous le savez, altérer votre état, raccourcir votre vie. Ce serait dommage, tout ça.
Oui, je sais tout ça, mais comme je vous ai dit, j'ai ces traumas qui sont comme des casseroles derrière moi. Et...
Ah oui, c'est ça.
Et c'est très très compliqué. Et...
Il faut beaucoup de force hein, pour de temps en temps, quand on a vécu des choses comme vous les avez vécues, se dire je vais me demander encore plus.
C'est difficile quand on est une maman solo d'un enfant handicapé de dire il faut que je fasse encore plus, parce que je fais déjà bien plus que la normale. Vous voyez?
Ouais. Donc, mais oui, c'est ça.
Parce que la normale, finalement, quand je repense à mes deux enfants adultes, je me dis, purée, c'était une part de gâteau, quoi. C'était facile, c'était
mais oui, ça,
les doigts dans le nez, quoi.
Ça a été tellement difficile, quoi.
Mais là, ça a été difficile pour son handicap, et puis maintenant que il est plus indépendant. Il y a tout qui me retombe en fait. Il y a tout qui retombe.